France Culture.
L'heure du journal de la rédaction présentée ce soir par Valentin Gris. Bonsoir.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à toutes et à tous. Vladimir Poutine déclare une courte trêve en Ukraine. Les troupes russes sont sommées par le Kremlin de poser les armes jusqu'à lundi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky fustige de son côté une tentative de jouer avec les vies humaines. Nous vous apporterons les dernières précisions depuis Moscou. La France veut de son côté accueillir les chercheurs étrangers, notamment venus des États-Unis. Paris entend se positionner en refuge face aux coupes budgétaires décrétées par Donald Trump dans les universités américaines, et ce malgré ses propres difficultés financières. Enfin, les enseignants seront désormais recrutés plus tôt, dès Bac plus 3. Un décret paru aujourd'hui détaille la méthode choisie par la ministre de l'Éducation Elisabeth Borne. Les détails à la fin de ce journal. En Ukraine, Vladimir Poutine a ordonné un cessez-le-feu pour la fête de Pâques dès 17h heure française. Cet arrêt complet des hostilités annoncé par le président russe doit durer jusqu'à la nuit de dimanche à lundi. C'est la première fois qu'une telle trêve est proposée par le Kremlin. Jusqu'ici, les trêves n'avaient pas été respectées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui dénoncé une nouvelle tentative de Poutine de jouer avec les vies humaines. Récit à Moscou de Jean-Didier Revoin.
C'est un Vladimir Poutine qui se dit guidé par des principes humanitaires qui a annoncé cet après-midi un arrêt complet des combats en Ukraine à l'occasion de ce week-end pascal. Lors d'une réunion avec son chef d'état-major, le président russe a décrété cette trêve de manière unilatérale en expliquant qu'il partait du principe que les forces ukrainiennes suivront l'exemple russe. Mais il a toutefois précisé que ses forces armées répondront à toute violation de cette trêve, comme à tout autre type de provocation de la part de l'ennemi. C'est la première fois depuis le début du conflit, il y a plus de 3 ans, que la Russie procède à un gel des hostilités. Une façon aussi pour Vladimir Poutine de répondre aux critiques occidentales. À Washington comme à Bruxelles, on accuse le président russe de chercher à gagner du temps en posant des conditions pour appliquer la trêve de 30 jours promue par l'Ukraine et les États-Unis. Il en a profité aujourd'hui pour inverser les rôles en expliquant qu'il sera possible de juger la capacité des Ukrainiens à régler ce conflit de manière pacifique sur la base de la façon dont Kiev respectera ce cessez-le-feu.
Et j'ajoute que Moscou a annoncé sur Telegram avoir échangé plus de 240 prisonniers de guerre avec l'Ukraine, dont des soldats gravement blessés. Autant de Russes ont fait la route dans l'autre sens. Le Kremlin affirme aussi aujourd'hui, par la voix de son chef d'état-major Valéry Gerasimov, avoir repris 99,5% des territoires occupés par l'armée ukrainienne dans la région frontalière de Koursk. Elle aurait donc presque terminé la reconquête de ce territoire qui avait fait l'objet d'une offensive de Kiev l'été dernier. Washington et Téhéran concluent une 3e session de discussion sur le nucléaire iranien. Ces échanges se sont tenus dans une atmosphère constructive et avancent, selon la diplomatie iranienne. Ils sont pilotés par le ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et par l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. Mais ils demeurent indirects et placés sous la stricte intermédiation de l'ambassadeur d'Oman. La dernière rencontre remonte à 2015 et Donald Trump menace toujours de bombarder l'Iran si l'enrichissement de l'uranium ne cesse pas. Selon Téhéran, de nouveaux pourparlers directs sont prévus pour samedi prochain. J.D. Vance, de son côté, était en visite à Rome. Aujourd'hui, le vice-président américain a rencontré au Vatican le cardinal italien Pietro Parolin à la veille des célébrations de Pâques. Aucune rencontre avec le pape François n'a pour l'instant été confirmée. Ils pourraient se croiser dimanche en marge de la messe. Les relations entre les deux hommes sont fraîches, sur fond de profonds désaccords sur la politique migratoire notamment. Il y a un mois, le 19 mars, la police d'Istanbul arrêtait pour corruption et terrorisme le maire de la plus grande ville turque, principal rival du président Recep Tayyip Erdogan, Ekrem İmamoğlu. Cette incarcération a poussé des centaines de milliers de Turcs à descendre dans les rues ces dernières semaines. La formation du maire emprisonné, le Parti républicain du peuple, CHP, dénonce depuis un putsch contre son candidat à la prochaine présidentielle. Le CHP s'efforce de maintenir la pression sur le pouvoir, notamment en organisant 2 rassemblements par semaine. Ce samedi, il était à Yozgat, une ville d'Anatolie centrale, considérée comme un bastion du pouvoir, à Ankara, à Nandlauer.
Özgür Özel, le dirigeant du CHP, est entré dans Yozgat au volant d'un tracteur suivi de dizaines d'autres klaxons hurlants, conduits par des agriculteurs. L'image et le choix de Yozgat n'ont rien d'anodin. Au plus fort des rassemblements contre l'arrestation des Ekrem İmamoğlu, cette région conservatrice avait été le témoin d'une scène étonnante, une manifestation d'agriculteurs en faveur du maire d'Istanbul sur leur tracteur, dans une ville où le CHP n'a récolté que 2% des voix au municipal de l'an dernier. Le principal parti d'opposition veut faire de Yozgat un symbole. Le CHP ambitionne non seulement de faire durer la contestation, mais aussi de l'étendre à toute la Turquie, en particulier aux provinces qui semblent acquises au président Erdogan. À Yozgat, ils étaient des milliers pour écouter Özgür Özel.
Antalya'da yapabilirdik.
Nous aurions pu faire ce meeting à Antalya ou dans un autre bastion de notre parti. Mais si cette place, cette ville de Yozgat qui a voté pour toi, Erdogan, à 75% la dernière présidentielle, se fait entendre aujourd'hui pour dénoncer ce putsch contre les urnes, contre cette junte que tu as mis à la tête du pays, alors Erdogan, c'est que nous sommes au bon endroit.
Prochain rendez-vous pour l'opposition, le 23 avril, un jour de fête nationale en Turquie, pour une grande marche à Ankara jusqu'au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République.
Les précisions d'Anne Andlauer. Au Royaume-Uni, plusieurs milliers de manifestants rassemblés cet après-midi à Londres pour la défense des droits des personnes trans, des droits qui pourraient être mis à mal par la décision de la Cour suprême britannique mercredi de fonder la définition légale d'une femme sur le sexe biologique. Les personnes transgenres craignent désormais des discriminations et des inégalités dans l'accès aux soins et au processus de transition. La France est prête à accueillir des centaines de chercheurs du monde entier, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste. Une réponse aux nombreuses coupes budgétaires imposées par Washington aux universités américaines. Ces déclarations du ministre ce matin succèdent au lancement jeudi d'une plateforme, Choose Friends for Science, qui permet aux universités et organismes de recherche de déposer des projets impliquant des chercheurs internationaux sur des thèmes comme la santé, le climat ou la biodiversité. Bonsoir Héloïse Weiss.
Bonsoir.
Depuis quelques jours, la France entend donc se positionner comme un lieu d'accueil pour les chercheurs américains, sauf que l'enjeu des financements interroge.
Oui, parce que si l'idée d'accueillir des chercheurs américains fait a priori consensus parmi les chercheurs en France, le secteur de l'enseignement supérieur subit lui-même des coupes budgétaires, ce qui fragilise de fait l'état de la recherche française. C'est ce que rappelle Anne Roger. Elle est la co-secrétaire générale du SNES-UPFSU, le syndicat national de l'enseignement supérieur.
On a perdu 1 milliard d'euros depuis la loi de finances initiale de 2024. Donc on est un peu circonspect. On a depuis un petit moment maintenant une surcharge de travail qui repose notamment sur les enseignants-chercheurs, hein, qui sont des enseignants qui enseignent mais qui font aussi un demi-service en recherche et qui font de plus en plus d'enseignements et qui ont de plus en plus de mal à faire de la recherche. Si on veut accueillir des chercheurs américains ici, c'est ces conditions-là qu'ils vont trouver.
Mais l'accueil de ces chercheurs américains en France soulève une autre question, celle de leur indépendance ici en France, d'après Olivier Bernet, directeur de recherche au CNRS et co-organisateur de Stand Up for Science en France.
Est-ce qu'on est nous-mêmes capables, en France, en Europe, de garantir une véritable liberté académique ? C'est-à-dire la possibilité pour les scientifiques de décrire la réalité, de produire des faits sans pression des politiques ou du monde économique ou des forces religieuses. Depuis plus de 10 ans, on observe en France quand même un renforcement du contrôle politique sur l'université et la recherche. Et ça s'est accompagné d'une lourde charge bureaucratique et puis parallèlement l'accroissement des attaques contre les organismes scientifiques et les universités. Donc c'est essentiel de renverser cette tendance.
D'ailleurs, la plateforme Choose for France for Science, qui vient d'être lancée pour accueillir les projets de chercheurs internationaux, n'est pas ouverte à toutes les disciplines. Elle ne concerne pas les sciences sociales, comme les études sur le genre ou le racisme, des axes de recherche menacés aux États-Unis, mais bien critiqués aussi ici en France.
Merci beaucoup Héloïse Weiss pour France Culture. Les enseignants ne seront plus formés de la même manière à partir de l'année prochaine. Après avoir annoncé une loi plusieurs fois, l'exécutif a rédigé un décret publié ce samedi au Journal officiel et portant réforme de leur mode de recrutement. Il interviendra notamment à partir de Bac plus 3 et non plus de Bac plus 5. L'enseignement confronté à la crise des vocations était décrit comme priorité absolue par François Bayrou et la ministre de l'Éducation Elisabeth Borne. Les détails de la nouvelle méthode avec Luc Chemelin.
Le concours de recrutement aura désormais lieu plus tôt, c'est-à-dire dès Bac plus 3. Les candidats pourront donc s'y mesurer juste après avoir eu leur licence, alors qu'actuellement il faut être à Bac plus 5 et un master en poche pour le passer. Ce changement va se faire progressivement. Dès 2026, les deux concours vont d'abord coexister pour ne pas en pénaliser certains. Et à partir de 2028, l'examen qui était organisé en fin de master aura définitivement disparu. À noter que pour préparer le concours du premier degré, soit les écoles maternelles et élémentaires, une licence spécifique sera mise en place dès l'an prochain. Une fois cette étape réussie, les futurs enseignants suivront une formation professionnalisante en 2 ans et seront payés 1 400 € net, puis 1 800 €. Il y a toutefois une contrepartie, ils devront s'engager à exercer le métier de professeur pendant au moins 4 ans. Toutes ces mesures ont donc un objectif, attirer davantage de candidats vers le métier d'enseignant après d'autres réformes qui n'ont pas eu l'effet escompté.
Luc Chemla. Les écologistes ont conclu ce samedi leur congrès et c'est sans surprise la motion de Marine Tondelier qui l'a emportée au premier tour avec 73% des voix des militants. L'élu d'opposition d'Hénin Beaumont conserve son poste de seul secrétaire national du parti. On termine avec la météo de ce samedi soir. Pluvieux sur une large partie du pays à l'exception du Grand Est et des Pyrénées. Comptez de 8 degrés à Tarbes à 17 à Paris. C'est la fin de ce journal préparé par Caroline Beneteau avec à la technique Alex Dang. Prochain rendez-vous d'information demain à 7h avec Estelle Caméraire.